Salut, c'est Lucie, vous écoutez l'émission d'information locale qui s'apprête à commencer. Au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, 3 lauréats brétiliens au Trophée Breton des Transitions. Interview avec Mathieu Theurier, vice-président à Rennes Métropole, pour comprendre l'augmentation du prix du ticket de métro et de bus. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, un reportage avec deux chefs rennais récompensés par le guide du Goemio. Et puis, recommandation, une soirée de fin d'année pour soutenir le mouvement féministe à Rennes. Bienvenue dans la Rennes.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Allez, on commence avec l'info du jour que j'ai retenu pour vous. L'annonce des lauréats de la 17e édition des Trophées Bretons des Transitions. Un concours organisé depuis 2005 par l'État, l'ADEME, qui est l'Agence de Développement et de Maîtrise de l'Énergie, et puis la Région Bretagne. La nouvelle est tombée hier. Sur les 152 candidatures reçues, 8 structures recevront un trophée à l'automne pour récompenser leurs initiatives en faveur de la transition écologique et du développement durable. Et parmi elles, on trouve 3 projets brétiliens. Pacadur est distingué dans la catégorie association. On en a déjà parlé de ce projet dans l'émission d'information locale. Cette association, elle travaille en partenariat avec 70 commerces dans la métropole et dans le département pour proposer des contenants réutilisables en verre. C'est donc voilà le retour de la consigne dans le champ de la cuisine à emporter. Dans la catégorie établissement d'enseignement, on retrouve la cité scolaire Beaumont qui est implantée à Redon, récompensée elle pour l'éco-festival Beaumonde, un événement qui a vécu sa 5e édition en octobre 2022. Sur 2 jours, les élèves et le personnel ont pu participer à des ateliers, des moments de collecte de déchets, des projections, un concours d'éloquence ou encore un forum associatif. Enfin, la mairie de Laillé au sud de Rennes remporte le prix Santé-Environnement grâce à ses efforts de végétalisation et de développement de l'autonomie énergétique autour de ces écoles. Il y a par exemple eu un jardin éducatif et solidaire de créer, mais aussi des travaux de rénovation énergétique ou encore l'installation d'une centrale photovoltaïque. Bravo à eux, même si je ne peux pas m'empêcher de sourire quand je vois des partenaires comme le Crédit Agricole dans de tels concours. Bref, après cette info du jour, c'est l'heure d'une interview. Mathieu Theurier, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes vice-président à Rennes Métropole en charge des mobilités et des transports. Au passage, membre d'Europe Écologie Les Verts, et ensemble, on fait le point sur plusieurs dossiers dans le chapitre politique transport. L'actualité la plus récente, c'est l'évolution de la grille tarifaire à partir du 1er juillet prochain. C'est donc la semaine prochaine. Plus 0,20 centimes pour le ticket de métro et ticket de bus unitaire, on précise. Une décision qui a été prise surtout dans le contexte d'inflation qu'on connaît, amplifié depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est ça le déclencheur?
Alors, oui et non. Alors évidemment, ce contexte y joue sur le prix des services de transport et des services publics de façon générale pour une collectivité comme Rennes Métropole. Mais pour ce qui est du ticket unitaire, il faut avoir en tête que sur la métropole de Rennes, il n'a pas augmenté depuis 2014. Ce qui fait qu'il était, enfin, il est encore jusqu'au 1er juillet à 1,50€, ce qui nous situait dans les territoires les plus bas en termes de prix. Un exemple, hein, mais Brest est à 1,60€, Strasbourg à 1,80€, Nantes est passé aussi à 1,70€, et que par ailleurs on a pris des décisions aussi en début de mandat de continuer à baisser le prix des abonnements, notamment pour les moins de 26 ans, mais on a aussi fait la gratuité pour les moins de 12 ans, on a continué à élargir les tarifs réduits sous conditions de revenus, et tout ça a un coût, plus la mise en œuvre de la ligne B du métro et le redéploiement du réseau bus qui a aussi un coût, et en fait on arrive à un moment où la part qui est payée par l'usager du coût global du service de transport est autour de 28%, là où sur les autres territoires, elle est plutôt autour de 35%. Et on voit qu'en fait, si on reste sur ce ratio-là, on risque d'avoir des difficultés à continuer à investir massivement sur notre réseau de transport. Et donc, on a fait un choix, effectivement, de réaugmenter le ticket unitaire. On ne touche pas les abonnements. Et en fait, ce qu'on retrouve en marge financière sur le ticket unitaire nous permet aussi de maintenir les abonnements à niveau.
Sur le choix du tarif, donc on arrive à 1,70€ le ticket de métro ou de bus, avec le souhait de s'aligner sur ce qui se fait ailleurs en France. À Nantes et à Strasbourg, le ticket il coûte 1,80€. Il coûte également 1,70€ du côté de Marseille, Bordeaux et Lille. On doit dire aussi qu'il y a moins cher du côté de Montpellier, Brest, Grenoble, etc. La moyenne, c'est 1,60€ au moment de décider sur le tarif, comment vous avez décidé d'aller au-delà de la moyenne.
En fait, la moyenne, elle est à 1,66€. Et donc, 1,66€, comme on ne va pas mettre des pièces de 5 centimes, c'est pour ça qu'on est arrivé à 1,70€. Et surtout, en fait, on a fait un calcul sur ce que ça ramenait en recettes. En gros, il fallait qu'on retrouve à peu près 2 millions d'euros chaque année pour pouvoir encore une fois maintenir les abonnements à niveau, continuer à élargir nos grilles de tarifs réduits pour les populations qui en ont le plus besoin, et puis surtout continuer à investir sur l'offre de transport en commun. La ligne B, elle est en route, elle fonctionne, mais aujourd'hui nos efforts ils se portent sur les services de bus des communes de première couronne, et comme c'est des communes qui demandent de réaliser plus de kilomètres pour être desservis, et bien c'est aussi des services de bus qui coûtent un peu plus cher que quand on les fait dans le cœur de métropole, et donc on a besoin effectivement de ces capacités financières pour continuer à augmenter l'offre, sachant que il y a la recette des usagers, mais encore une fois il faut le redire, hein, l'usager ne paye moins de 30% du coût réel du service de transport, le reste est assuré par la collectivité via l'impôt, et sur l'impôt aujourd'hui on est au taquet depuis très longtemps de ce que l'État nous autorise à faire. On aimerait bien, et c'est une demande que l'on fait au gouvernement successif depuis des années, de pouvoir déplafonner en fait cet impôt-là pour faire plus peser en fait le coût des transports sur les entreprises, parce que c'est un impôt qui s'applique aux entreprises plutôt que sur l'usager. Aujourd'hui, on a une fin de non-recevoir de la part des gouvernements, et donc notre seule marge de manœuvre, elle est sur les recettes usagers.
Aujourd'hui, les entreprises, elles participent, c'est 50%, je crois.
Ça paraît déjà assez élevé. En fait, les entreprises, elles ont une fiscalité, donc qui elle revient directement à la métropole, qui s'appelle le versement mobilité. Le versement mobilité, c'est une taxe sur les salaires, une taxe de 2% sur les salaires pour toutes les entreprises qui ont plus de 11 salariés. Juste quelques ordres de grandeur, aujourd'hui le coût du réseau Star et de l'ensemble des services de mobilité qu'on développe sur la métropole, c'est 160 millions d'euros par an. La fiscalité entreprise nous ramène aujourd'hui à peu près 120 millions d'euros par an. Donc c'est bien les entreprises qui sont de très loin le premier financeur du réseau de transport, et l'usager paye via les tarifs les 40 millions d'euros restants. Sachant que effectivement, quand vous êtes salarié et que vous prenez un abonnement, imaginons un abonnement plein tarif à 500€, votre entreprise doit prendre en charge aussi 50%. Donc les entreprises payent quelque part deux fois, et l'usager, quand il est salarié, au final, le prix d'un abonnement Star lui revient à moins de 300€ par an.
Et vous aimeriez encore les faire plus participer que ça ?
Oui, parce qu'aujourd'hui, on est un territoire qui économiquement se porte bien, et c'est une bonne nouvelle. Par contre, le paradoxe, c'est que dans le même temps, que ce soit la métropole, mais aussi les communes, parce que l'État leur a enlevé progressivement des capacités à lever l'impôt, hein, tout simplement.
Notamment avec la taxe d'habitation.
Par exemple, mais le gouvernement a aussi supprimé récemment la contribution sur la valeur ajoutée, qui était une taxe qui s'appliquait sur les entreprises, sur lesquelles on était très très loin, nous, d'être au taquet, et sur lesquelles on avait un peu de marge de manœuvre, par exemple. Et donc, ce phénomène-là fait qu'aujourd'hui, la richesse qui est créée sur le territoire, on la capte moins qu'avant, et forcément c'est moins d'argent pour les services à la population. Aujourd'hui, moi je discute au quotidien avec les entrepreneurs et les représentants d'entreprises, ils nous disent tous qu'ils n'ont pas de problème à payer l'impôt dès lors qu'il y a un service public en face qui est profitable aussi pour le salarié. Et typiquement, les services de transport, on le voit le long de la ligne A comme de la ligne B, c'est clairement un élément d'attractivité pour les entreprises et pour recruter aujourd'hui. Donc elles ne sont pas fondamentalement opposées à ce que cet impôt il puisse évoluer dès lors qu'il y a un service qui leur profite en face.
Si le prix du ticket unitaire augmente, le prix des cartes d'e-voyage et des passes 24 heures augmente aussi avec ça. Il faut bien le redire, le tarif des abonnements ne bouge pas avec une tarification sociale qui est mise en place. pour essayer de comprendre qui va être impacté par cette augmentation du prix des tickets, on peut dire que vous ciblez surtout les utilisateurs occasionnels.
En fait, le ticket unitaire, il est utilisé par 25% des usagers du réseau de transport. Donc c'est pour ça, en fait, on fait le choix de faire une augmentation finalement sur la part des usagers qui est la plus faible. Et sur les 75% des autres usagers, eux, ils sont en abonnement et pour eux, les tarifs ne changent pas. Donc on vient plutôt effectivement augmenter sur les personnes qui sont occasionnelles. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'enjeu, c'est aussi d'inciter ces occasionnels à aller plus vers des abonnements. Parce qu'en fait, comme on avait un prix du ticket unitaire qui était très bas, il y a un différentiel avec nos abonnements qui fait qu'on peut être tenté d'acheter des tickets par 80 ou 100, ce que certaines personnes font, plutôt que de prendre un abonnement. Or, on sait que la détention d'un abonnement, elle est déterminante dans le fait de laisser un peu plus sa voiture, parce que quand vous avez un abonnement, vous avez un accès illimité au réseau de transport en commun. Donc, en montant le ticket, on fait aussi un peu le pari qu'il y a des gens qui vont se reposer la question de savoir s'ils ne prennent pas un abonnement. Et peut-être, ils vont regarder si, en fonction de leurs revenus, finalement, ils ne peuvent pas avoir un abonnement avec un tarif réduit. Et quelque part, on les incite à faire valoir leurs droits. Donc c'est aussi ça la logique des choses. Par ailleurs, on a un autre titre qui existe qui est, parce que le ticket unitaire, en fait, il est beaucoup utilisé le samedi notamment pour les gens qui vont venir
de l'extérieur de Rennes Métropole aussi.
Voilà, beaucoup des familles aussi. Il faut redire hein, sur les samedis et dimanches, comme les jours fériés, on a un titre qui s'appelle le pass pluriel. Pour les groupes, en fait, vous n'êtes pas obligé de prendre un ticket par personne. Si vous prenez le pass pluriel, pour 5 euros, vous pouvez circuler en groupe sur l'ensemble du réseau de transport toute la journée. Voilà. Donc, on a aussi à mettre en avant ces solutions-là. Et c'est pour ça qu'on aura une campagne de communication assez conséquente à la rentrée sur les tarifs réduits sous conditions de ressources. On se dit qu'effectivement, en montant le prix du ticket, il y a des gens qui peuvent se reposer la question. Et donc, on aura en parallèle cette campagne de communication pour amener les gens vers les abonnements.
Lors du dernier conseil métropolitain, alors cette décision elle a plutôt fait l'unanimité, il y a quand même une élue qui vous a interpellé pour regretter cette évolution alors que dans le même temps les écologistes veulent inciter les habitants à prendre plus les transports en commun. Il y a une contradiction ou pas ?
Alors je vous confirme qu'effectivement on a eu un vote quasi unanime du conseil de Rennes Métropole. Non, il n'y a pas de contradiction, enfin clairement. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que toutes les études depuis des décennies qui sont faites sur les réseaux de transport en commun en France et ailleurs en Europe montrent bien que le prix des transports n'est même pas dans le top 10 des freins à l'usage des transports en commun selon les usagers eux-mêmes. Et selon en fait les citoyens eux-mêmes. Clairement, ce qui fait l'attractivité d'un réseau de transport, c'est d'abord la qualité de ce réseau-là lui-même. Est-ce que vous avez des bus ou des métros proches de chez vous ? C'est la première chose. Est-ce qu'ils passent fréquemment ? Est-ce que le service commence tôt le matin, finit tard le soir ? Est-ce que vous vous sentez en sécurité sur le réseau, notamment quand vous êtes une femme ? Parce qu'on voit bien qu'on a encore des sujets, malheureusement, sur ces problématiques de présence des femmes dans l'espace public, et notamment sur le réseau de transport en commun. Est-ce que le transport en commun, il est au moins aussi rapide que la voiture ? Voilà, c'est tous ces enjeux-là. Et vient beaucoup plus loin la question des tarifs, parce que la réalité aujourd'hui, je le disais, un abonnement plein tarif pour le réseau Star, c'est autour de 500 euros par an, avec 50% pris en charge par l'employeur. Une voiture, c'est entre 5000 et 7000 euros par an. Donc l'attractivité en termes de prix du réseau de transport, elle n'est pas à démontrer, et ce n'est pas l'évolution du ticket unitaire qui va faire la différence là-dessus. Donc non, au contraire, il n'y a pas de contradiction, puisque l'argent des recettes usagées, encore une fois, elle nous sert à continuer à investir sur le réseau de transport pour continuer à le rendre attractif. Avec l'ouverture de la ligne B, on fait plus 20% d'usagers sur le réseau Star. On n'a pas bougé les tarifs à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'on a plus 20% d'usagers ? Simplement, on amène une nouvelle offre qui est attractive par rapport à la voiture individuelle.
Vous avez évoqué une campagne de communication à venir pour rendre plus visibles les possibilités de tarification sociale pour des abonnements pour les transports en commun. Je me demandais si vous anticipiez peut-être un taux de fraude qui pourrait augmenter avec un prix qui, pour certains publics, peut peut-être devenir dissuasif et qui ne serait pas outillé pour faire cette démarche d'accès à une tarification sociale. On sait qu'il y a un non-recours. Je ne sais pas s'il est important.
Oui, on sait qu'il y a du non-recours. On fait le constat d'ailleurs que une partie non négligeable des personnes qui fraudent de façon régulière sont en fait éligibles aux tarifications sociales, aux tarifs réduits. Donc on sait qu'on a ce travail-là à faire. On le mène en fait hein, depuis plusieurs années. Ce qu'il faut quand même redire, que en 2017, on avait 36 000 personnes qui bénéficiaient de ces tarifs réduits. Aujourd'hui, c'est 90 000. Alors on a continué à élargir le nombre de personnes personnes ayant droit, ce qui explique cette augmentation. Mais c'est aussi parce qu'on a fait un travail effectivement de lutte contre le non-recours qu'on arrive à toucher plus de personnes. Et ce travail, on a vocation à l'amplifier. Alors je parlais d'une campagne de communication à la rentrée. On va aussi commencer à expérimenter des actions en porte-à-porte pour faire connaître ses droits, sachant qu'il faut le redire, hein, mais quand on amène une personne à faire valoir ses droits à un tarif réduit sur les transports, en fait, on vient traiter d'autres éléments de sa situation aussi. C'est-à-dire que on va lui proposer aussi la carte sortir dans le même temps. On va voir si il sollicite bien ses APL sur le logement, etc. En fait, on mène un accompagnement assez global.
Un chiffre ajouté en lien avec ce sujet de la tarification sociale, elle concerne aujourd'hui 31% des trajets quotidiens et peut amener l'usager à bénéficier de 50% de réduction sur son abonnement et même jusqu'à la gratuité. Donc ça concerne les abonnements mensuels. Je voulais juste faire un pas de côté sur un sujet qui est quand même un peu lié puisqu'on vient de parler de fraude. Il y a eu un gros changement qui s'est matérialisé physiquement fin 2020 dans les stations de métro. Pour lutter contre ce phénomène, c'est l'installation de portiques. Pour les auditeurs qui n'ont pas suivi le dossier, c'était pas le souhait des écologistes, mais vous faites partie d'une majorité, vous avez dû y aller. En février, il y a le quotidien du Télégramme qui relevait une augmentation de dysfonctionnement, notamment due à des faits de vandalisme. Ça concernait jusqu'à un portillon sur cinq. Et je pense que les usagers ont déjà tous, je pense, croisé ou ont peut-être eux-mêmes... oui, et puis vu des personnes forcer le portillon, ça fonctionne plutôt bien, en fait, pour pouvoir passer. Quels éléments vous avez, un, sur l'évolution de la fraude et puis sur le coût de la maintenance, sachant que l'installation elle-même a coûté des millions d'euros?
Ouais. Oui, effectivement, on a en fait, alors sur les portillons, on a plusieurs choses. C'est que après leur installation, on a une des entreprises qui était en charge de leur installation qui a été en liquidation. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent dans la vie des entreprises, mais ça nous a fait perdre un peu de temps justement pour pouvoir intervenir sur les portillons qui, pour un certain nombre, ont des défauts en fait à l'installation sur une pièce qui est défectueuse et qu'il nous faut remplacer. Donc ça prend un peu plus de temps que ce qu'on avait imaginé. Ça fait aussi partie de chantiers comme cela que de devoir se réajuster dans les mois qui suivent l'installation. C'est le cas pour les portillons, c'est le cas pour le métro par exemple, où aujourd'hui on a des interventions sur le viaduc par exemple. Voilà, mais par contre aujourd'hui, si on compare les coûts de cette installation par rapport à la baisse du taux de fraude, on a bien un investissement qui reste bénéfique pour la collectivité.
On sait comment il a évolué ce taux de fraude. Il était à 7%
ouais,
avant l'installation.
Ouais. En fait, le taux de fraude, il a explosé dans la période Covid sur le bus et sur le métro. C'est quelque chose qu'on a constaté partout ailleurs, sur tous les territoires de France. Il y avait une sorte de relâche lié au Covid. Il a rebaissé ensuite, mais sur le métro, on avait dépassé les 10%. Et sur le bus, en fonction des lignes, on montait parfois à 15%. Le fait d'installer les portillons, ça nous a permis de redescendre aujourd'hui. Aujourd'hui sur le métro, on est plutôt autour de 5%, sachant qu'on avait laissé les portillons pour les personnes à mobilité réduite ouverts la première année avant de trouver une solution universelle d'accès. Que là, on a souvent des portillons qui sont ouverts, donc dès lors que tout sera en place, on devrait descendre autour de 4%, ce qui était l'objectif, et ça nous permet effectivement de redéployer du personnel humain, notamment équipe de contrôle, sur le bus, sachant qu'il faut le redire, les contrôleurs n'ont pas seulement pour mission de contrôler, ils ont aussi pour mission d'être en médiation et d'informer aussi les usagers sur leurs droits en matière de tarifs notamment, et donc les portillons nous permettent de redéployer ces personnels sur les autres lignes de bus de la métropole.
Une dernière question, vous nous avez expliqué un peu les éléments qui ont motivé cette évolution de la grille tarifaire qui va entrer en vigueur à partir du 1er juillet, notamment avec ces investissements passés et à venir qui nécessitent des financements. Le gros chantier en cours, c'est celui des lignes de trambus, 4 lignes de trambus qui d'ici 2030 permettront de relier des communes de la première couronne à Rennes. Est-ce que je suis la seule à pas avoir bien compris ce qu'il y avait de tram dans le trambus? C'était ma question. Non, je vois plus le bus que le tram, en fait.
Je pense qu'effectivement, on est sur un concept qui est un peu hybride et qui est assez peu développé encore aujourd'hui en France. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'habitants de notre territoire qui ne visualisent pas encore exactement à quoi ça peut ressembler. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des projets de transport en commun sur tous les territoires de France sont sur des modèles trambus. Les projets tram, il n'y en a plus beaucoup. Les projets métro, on était les derniers et sincèrement, il n'y en aura plus d'autres en France avant des décennies, c'est une évidence. Donc le modèle trambus va beaucoup se développer. Par ailleurs, on est un territoire en fait qui a été proactif aussi ces dernières années. Des voies bus, on en a fait beaucoup. On pense à l'Access West dans Rennes notamment, mais pas seulement. Ce qu'il faut imaginer encore une fois, c'est si vous visualisez ce qu'est l'Access West, c'est bien ça qu'on va faire, mais sauf qu'on va le faire sur des dizaines de kilomètres de lignes, encore une fois vers les communes de première couronne. On va avoir des arrêts qui vont plutôt là pour le coup ressembler à des stations de tramway et beaucoup moins à des arrêts bus. Et ensuite on a des matériels roulants, notamment avec l'électrification, qui vont quand même plus vraiment ressembler à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est des matériels qui sont quand même très différents et très confortables. Et donc finalement on va avoir les atouts du tramway, puisque on a bien un transport en commun qui circule en site propre, donc qui n'est pas lié à la circulation automobile, qui a un temps de parcours qui est toujours le même. On va avoir des gains de temps aussi pour beaucoup d'usagers, avec des horaires aussi qui vont être à peu près ceux du métro. Donc c'est en ça qu'on parle de tram. Et par contre, c'est bien un service qui est assuré par des matériels roulants qui, eux, ressemblent plus à des bus. Ça nous permet en fait d'avoir une beaucoup plus grande fréquence de passage que ce qu'on peut faire avec un tramway. Ça nous permet aussi de ne pas être dépendant de rails au sol ou de câbles en hauteur et d'avoir un système beaucoup plus souple et beaucoup plus adaptable.
Et avec des véhicules électriques.
Tout à fait.
Mathieu Thurier, je vous représente. Vous êtes vice-président à Rennes Métropole en charge des mobilités et des transports. Ensemble, on a pu faire le point sur plusieurs dossiers dans ce chapitre politique transport. Pour plus d'informations, il y a le site internet métropole.rennes.fr et puis évidemment le site star.fr où vous pouvez retrouver aussi des informations sur le lancement assez récent d'une ligne vers les étangs d'Apigné, par exemple. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Start laughing from the mountain my head's carved in. Did you know that I've been burning all these years to see them turning? I heard that you
Did You Hear the Kids par Magon, une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur musical ici à Canal B. Titre extrait d'un album du même nom qui est sorti le 2 juin chez December Square. Magon, artiste israélien prolifique puisqu'il sort un, voire deux albums quand il est très en forme par an, et ce depuis 2019. Vous écoutez Canal B sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur notre site canalb.fr. J'en profite là au détour d'une phrase pour vous adresser un message d'erreur et d'excuse. J'ai osé dire dans l'émission d'hier que Björk était finlandaise. Pas du tout, elle est bien évidemment islandaise. Voilà, c'est dit, sinon ça m'empêche de dormir. On passe tout de suite au reportage du jour. Vous connaissez peut-être le Go Emilio, ce guide influent en France mais aussi à l'étranger. Chez nous, il s'agit du deuxième guide le plus vendu après celui du Michelin. Et donc ce guide du Go Emilio, il propose à partir de demain une édition en vente consacrée à des escapades gourmandes dans notre région. Au fil de l'année, l'équipe du célèbre guide, qui est né dans les années 70, organise un tour de France pour remettre des prix aux professionnels de la restauration. Reportage lors de l'étape rennaise, organisée au château d'Apigné en début de semaine, à la rencontre des deux lauréats rennais qui nous viennent des établissements de la Fontaine aux Perles et de Hollène.
Alors, le Gomilo d'Or Bretagne 2023 est attribué à Jérémy Le Calvez.
Alors aujourd'hui nous sommes en Bretagne, alors en l'occurrence à Rennes. Ici passe un Go Emilio Tour. Donc en fait Go Emilio organise depuis maintenant plus de 10 ans 11 Go Emilio Tours par année qui représentent le terroir de toute la France et qui nous permet de détecter des talents dans les régions et de les mettre en avant à la fin de l'année sur le guide jaune. Patrick Ayoun, je suis le président et directeur général de Go Emilio pour la France et l'international. Alors le guide existe depuis plus de 50 ans, il est né en 1969, le premier guide jaune est sorti en 1972. L'ADN de Go Emilio, c'est d'écrire des textes, c'est d'avoir des chroniques qui vous donnent envie d'aller y manger. Et ça, c'est quelque chose qui est resté et qui reste à travers les 50 ans des guides. Le but du guide, c'est de répertorier les meilleures adresses en France, sur l'ensemble du territoire et à tous les prix et de toutes les qualités. On n'est pas limité comme d'autres pourraient l'être, donc on a un panel qui est quand même relativement large. Maintenant, c'est une sélection, donc ça sous-entend que lorsqu'on est dans la sélection de Go Emilio, on représente 2 ou 3% de la restauration nationale en France.
Quelles équipes se cachent derrière l'édition d'un tel ouvrage ?
Plus d'une centaine de personnes, entre les enquêteurs, les pigistes et évidemment l'équipe de rédaction et toutes les équipes de Go Emilio. Alors le prochain guide, le guide Bretagne déjà, va sortir jeudi en kiosque. On le retrouvera dans tous les kiosques de la région évidemment. Il présente 200 restaurants, mais pas que des restaurants. Il présente une centaine d'artisans, 60 hôtels et cela répartis sur de grandes villes. On retrouve dedans des chiffres importants de la région. On retrouve des itinéraires gourmands. On retrouve une sélection de cidres. Donc un guide qui est plus que juste une liste de restaurants.
Avec une dominante bleue sur la couleur. On disait que le Go Emilio était jaune, mais...
Bien sûr, alors évidemment, les guides régionaux ont une dominante de couleur qui est locale. Alors aujourd'hui, nous sommes en Bretagne. Ici passe un Go Emilio Tour. Donc la journée commence d'abord par une soirée où on a tous les nommés avec nous le soir d'avant et tous nos partenaires. Et on a un dîner dans un lieu normalement typique de la région. Et le lendemain, on a effectivement une remise de prix qui se déroule sur toute la matinée depuis 10h jusqu'à 14h, où on a d'une part une remise de prix et d'autre part des gestes de chef. Donc des chefs viennent faire des démonstrations culinaires en même temps qu'on a ça.
Là aujourd'hui, ce sont combien de chefs qui sont récompensés ?
11. Nous ne récompensons pas que les chefs, on récompense les chefs, mais tous les gens qui travaillent dans un restaurant. C'est-à-dire que ce soit aussi bien les sommeliers, les pâtissiers, les serveurs, le service, c'est vraiment global. C'est la gastronomie et la restauration. Je pense que la grande réflexion de la région, c'est quand même sa production. Je pense qu'ils sont en circuit court, qu'il y a énormément de produits locaux, et je pense qu'ils puisent dans ce vivier local pour présenter leur cuisine.
À quoi ça sert de leur remettre des prix finalement
C'est un, les mettre en lumière, deux, on les suit toujours, et on les suit sur le long terme. Et par exemple, quand on a un prix comme Le Grand Demain, et ben peut-être qu'un jour il sera à Paris, à la remise des prix, au gala annuel pour un cuisinier de l'année.
Comme un petit air de campagne, si proche finalement du centre-ville, le parc, arboré et fleuri, ponctué de sculptures colorées, étouffe les bruits urbains. La longue et lumineuse terrasse couverte, les multiples salles et salons d'un grand confort offrent tout ce qu'il faut pour les repas d'affaires, les célébrations en tout genre, mais aussi les repas en amoureux. Si les chefs se succèdent à bon rythme, il n'y a jamais de trou d'air. Victor Elliot a quitté son poste au printemps 2023, remplacé par Nathan Maigret, l'excellent pâtissier qui occupe désormais les deux postes et auquel nous maintenons pour l'instant notre confiance et nos trois tocs.
Bon, bonjour, je m'appelle Nathan Maigret, j'ai 25 ans, je suis le chef au restaurant La Fontaine de Père-la-Reine, donc une institution à Rennes qui est connue aussi, l'établissement, donc très heureux aussi de refaire vivre cet établissement. Et maintenant, je viens de passer depuis 3 mois aussi, je suis le chef exécutif, donc c'est-à-dire je m'occupe aussi du salé et du sucré. J'ai commencé par la cuisine, donc le salé, et après je m'étais orienté un peu côté pâtisserie pour apprendre à me perfectionner au niveau de la pâtisserie et de la boulangerie. Donc j'ai fait quelques années dedans, j'ai rencontré des grands formateurs, des belles maisons, donc, que je remercie, et que maintenant c'est mon souhait de revenir en cuisine, aussi salé et faire le sucré, ce qui est important pour moi, de faire un menu du début jusqu'à la fin, le même fil rouge qui est très très important.
Vous pouvez me raconter un peu votre parcours ?
Donc c'est venu tout petit, hein, être dans la cuisine déjà, je voulais ça avec ma maman, tout ça, qui aime aussi les bons produits, mes parents qui aiment les bons produits. Donc je me suis orienté directement dedans. J'ai fait un bac pro cuisine, après j'ai fait une petite mention complémentaire à la Garde de Bretagne. Et ensuite, après, je me suis dirigé à La Rochelle, chez Christopher Coutenceau, pendant plus de 2 ans. Ouais, j'étais là-bas, où j'étais bien formé. Après, je suis allé direction la Savoie, donc chez René et Maxime Meyer, à La Bouite, pendant une grosse saison du coup, d'hiver. Et ensuite, j'ai eu un poste de responsable en pâtisserie boulangerie, aussi, que j'ai mis en place au Clarence, à Lille. Donc, ça s'appelle le restaurant La Table. Avec le chef Thibaut Gamba, avec qui j'ai appris beaucoup aussi. Et maintenant, ça fait 10 mois que je suis revenu en Bretagne, dans mes terres, que je voulais revenir. Alors, le restaurant, oui, il est situé à Rennes, un peu à l'extérieur, la périphérie de Rennes, donc à La Poterie. Donc, on a un grand jardin de plus de 4000 m² quand même. Je pense qu'on a un très, très, très beau lieu au niveau du jardin. En cuisine, on est 6 en me comptant dedans. On a aussi une plongeuse, ça fait des années qu'elle est là. Au bureau, nous avons une personne. Et aussi en salle, pour le moment, ils sont 2. On fait combien de couverts ? On va dire 35 à 40 grand max. On va rester sur la qualité aussi, ce qui est très important. C'est mon fil conducteur de rester dans une belle qualité des produits, utiliser les produits de saison. Très important, premier point, saison, locaux. On a vraiment la Bretagne, ce qui est gorgé aussi de produits, des beaux produits, hein, surtout la mer. Je suis un peu plus affectionné côté mer quand même, j'avoue. J'aime bien que faire de la pâtisserie, évidemment. J'ai appris beaucoup de rigueur, de finesse, que maintenant je peux apporter aussi au niveau de la cuisine. Mais où je me fais le plus plaisir, c'est plutôt le salé. On est ouvert du mercredi au samedi, midi et soir, sauf le mercredi soir. Du mardi au vendredi, le midi, on propose un menu du marché, donc à 40 euros, qui est accessible à tout le monde, avec des petits canapés, mini-arnis, vraiment bien. Et après, on a 2 autres menus, donc on ne s'étend pas sur plusieurs menus, on a juste 2 autres menus derrière, où on peut s'exprimer aussi, ma cuisine et mon équipe aussi, une belle équipe de jeunes aussi.
Ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a vraiment des liens qui se nouent entre les producteurs et les chefs cuisiniers. Est-ce qu'il y a un producteur dont vous souhaiteriez parler ?
On va parler, du coup, j'ai la farine déjà. On fait notre pain aussi nous-mêmes, qui est très important pour moi, et la farine qui vient de Bruy, du moulin de Chancor, donc vraiment une farine de top qualité. Après, niveau poisson, on est vraiment à la marée pour tous, donc Louis qui est vraiment la famille Omnes, donc c'est familial, donc ça m'inspire beaucoup. Ils travaillent avec des petits pêcheurs, donc des petits pêcheurs aussi d'Erquy. J'ai mes parents maintenant qu'ils ont aussi, ils habitent à Erquy, donc j'ai la chance aussi de passer sur Erquy et apprendre aussi à voir la criée d'Erquy, tout ça.
En ce moment, sur les menus, on trouve quoi comme vous bossez avec des produits de saison
Alors, on va dire au niveau des entrées, on va faire, il y a la sardine, donc un petit poisson qu'on ne mange pas tous les jours, qui est assez compliqué vu que c'est petit à travailler, mais qu'on utilise entièrement. Donc on va utiliser le filet avec du garum qu'on va le faire brûler au chalumeau, la tête et les arêtes qu'on utilise pour faire un jus de tête, vraiment il n'y a aucune perte. Ça, on va retrouver ça avec des petits haricots là qui viennent juste d'arriver, donc on vient juste de mettre en place. Haricots avec du wakame aussi, donc ce côté un peu iodé de la mer, en petite salade, jus de tête, un petit lait ribot pimenté aussi. J'aime bien aussi ce qui peps donc dans mes assiettes, c'est très important aussi avoir du goût. Après, on a pas mal de choses aussi au niveau des plats. En ce moment, il y a le lieu jaune de ligne des harkis. Il ne fait pas souffrir le poisson. On a une belle chair bien ferme, bien blanche, bien ferme. Donc, on sert ça avec des asperges vertes, avec une petite hollandaise, agrumes, poivre de timu, donc il va ramener le peps dedans. Et côté sucré, du coup, en ce moment, on peut retrouver la fraise plougastel avec la rhubarbe et la fleur de sureau. Et aussi, on a à côté le nuage, j'appelle ça le nuage, en fait, c'est le dessert un peu autour du lait, en fait. On va retrouver un biscuit vapeur à base de yaourt de brebis. Il y a le yaourt qui est transformé de brebis en glace. Après, il y a la confiture de lait, la peau de lait aussi qu'on va aller chercher, la petite meringue pour amener croquant, la petite mousse de lait de chèvre, en fait, vraiment autour du lait qui plaît vraiment.
Vous avez un prix dans les mains qui récompense votre travail de chef pâtissier. Vous pouvez me présenter ce prix et puis ce que ça peut changer pour vous de l'avoir reçu ?
Bah déjà, je suis très honoré de l'avoir reçu. Déjà, c'est déjà énorme pour moi. Ça récompense moi, mais aussi mon équipe. Je suis pas seul derrière. Il y a quand même une belle équipe. Moi, j'ai Kevin qui est aussi en pâtisserie. Et derrière aussi, j'ai des bons cuisiniers aussi sur Clément, mon bras droit, vraiment, avec qui je m'appuie beaucoup dessus. Donc, on avance vraiment. Et mon patron aussi, il va dans Monsieur Nouveau, qui, dès le début, m'a laissé carte blanche et une confiance incroyable. Ça fait du bien aussi de voir aussi tous les autres chefs aussi de la Bretagne. On a la tête baissée dans le guidon, tête dans le guidon, à fond dans la cuisine. On n'a pas le temps non plus. Trop temps d'aller voir les copains à gauche à droite, découvrir la Bretagne. Moi aussi, je suis revenu ici pour revoir la Bretagne et aller voir les grands chefs bretons aussi, avec qui je m'inspire beaucoup déjà. Donc, ça fait plaisir de les voir, d'échanger ensemble pour l'avenir, pour beaucoup de choses.
Et donc, vous serez en cuisine mercredi, midi, c'est ça ?
Mardi.
Mardi.
Mardi, demain. On est reparti demain.
La maison de Tuc Dual de Béthune, installée aux abords de la rue Vasselot, signifie bien sa lecture ramassée de la région, compilée dans une expérience globale, un cadre apaisant aux aires de maison côtière, avec le bois peint, la bibliothèque, les tables en bois cerclées d'acier, les lignes scandinaves des assises, le gris, le blanc et le bleu marin, et bien sûr une assiette contenant l'essentiel, où la pêche et les paysages bretons sont à l'œuvre. Les trois menus sont à la discrétion du chef, qui conduit sa cuisine selon une approche personnelle et plastique de 6 à 9 plats.
Alors, je suis Tugal de Béthune. Depuis 5 ans, j'ai repris rue des Carmes un restaurant que j'ai nommé Olen. Alors, en breton, on prononce Rolen, ce qui veut dire le sel ou le minéral. Sur 5 ans d'activité, on a une étoile rouge au guide Michelin, une étoile verte pour récompenser notre éco-responsabilité. Et puis là, aujourd'hui, Goemio nous donne le... C'est un superbe... Je suis fier, hein, on est sur terroir d'exception, je pense que ça me convient bien, c'est tout à fait moi dans cette expression. Alors Olen, c'est quoi Olen? C'est un restaurant où on essaye de mettre en scène, un peu comme faisaient les chefs nordiques, une ambiance un petit peu higueux.
Higueux, comment on peut le traduire? C'est un peu...
Higueux, c'est le bien-être...
De se sentir comme chez soi.
De se sentir comme chez soi... tranquille. Maintenant, ma cuisine, elle est axée sur beaucoup sur le légume. Je n'ai pas une cuisine végétarienne, hein, pas du tout, hein, mais le fil conducteur de la créativité à Olen, c'est le légume. Alors, c'est pour ça que depuis maintenant 2 ans, on a, avec 2 chefs maraîchers qui font partie d'Olen, hein, puisqu'ils sont employés par Olen, créé du maraîchage à Servan-sur-Vilaine. Et donc cette année, on commence à avoir l'usufruit de cet investissement. Ça reste un investissement quand même, hein, de créer du maraîchage. Je suis à l'écoute de Mélanie et de Jonathan, parce que c'est eux qui sont mes fils conducteurs de créativité. Ils me disent, ben voilà, aujourd'hui, il y a ça, donc j'aurai ça. Et on tourne autour de ça au niveau de notre cuisine. Voilà.
Vous avez été formé où ?
Alors, je suis parti de la génération, on commence l'apprentissage à 15 ans. Je suis rentré directement dans de l'étoilé Michelin. Donc j'ai été, entre guillemets, alors, j'aime pas le mot, on va dire, construit. Voilà. Je suis formaté, c'est violent. Construit dans cet environnement d'étoilé Michelin, de connaissances produits, de rigueur de travail, de connaissances, parce que vous vous enrichissez avec les chefs avec qui vous travaillez. J'ai commencé mon apprentissage dans le Perche, dans un relais château qui était étoilé. Et puis de ça, je suis passé un petit peu en Normandie, dans un autre relais château qui était étoilé. Je suis passé par La Baule, Castel-Marie-Louise qui était étoilé. Ensuite, je suis passé par la case Alsace pendant 8 ans. Et de là, je suis reparti sur un autre ancrage qui est très très fort, c'est l'Aubrac. Alors, c'est un métier qui est riche, hein, c'est de l'artisanat. Ça vous imprègne et ça vous prend énormément d'énergie et ce que vous êtes vous, hein, le temps que vous devez... C'est vrai que le côté, entre guillemets, le côté famille vient peut-être en deuxième plan. Sans que vous le vouliez en fin de compte, parce que vous investissez tellement dans ce que vous faites. Donc j'ai fait un petit stop. J'ai fait un stop de à peu près de 15 ans où j'ai fait du consulting pour la Maison du Lait, où je faisais des formations en école hôtelière auprès d'étudiants du CAP jusqu'au BTS. Et puis ben voilà, j'avais fait le tour, je crois, et je me suis dit, ben, faut que je revienne à ce que j'aime faire, à mes gènes. Donc j'ai repris ce restaurant il y a 5 ans, voilà.
Vous avez des origines bretonnes ?
Alors, j'ai des origines bretonnes, avec un nom qui vient un petit peu du nord de la France. Mais je suis né à Rennes, je suis fils de militaire, donc j'ai aussi connu déjà ce côté un petit peu transhumance. Et donc moi j'ai choisi un métier où j'étais carrément dans la transhumance. Quoi.
Qu'est-ce qu'on trouve dans les équipes du restaurant ?
Alors je fais bien la différence entre je vais manger au restaurant et je vais manger à Olen ou ailleurs. Les gens viennent chez nous parce qu'ils attendent quelque chose. Quoi. Donc ça demande beaucoup de rigueur en fait. Donc, et pour ça, il faut arriver à trouver les personnes... Oui, c'est un peu comme une équipe de rugby, parce que moi je suis un petit peu, j'adore le rugby. Si vous regardez ce qu'est le 15 de France actuellement, il y avait un gros travail qui a été fait en amont. Genre, c'est vrai qu'ils sont arrivés à un niveau, mais pour arriver à ce niveau-là, je pense que derrière, il faut les hommes. Quoi. C'est pas évident à l'heure actuelle, parce que je pense qu'il y a une génération de jeunes qui est très bien. Hein. Moi j'adore, mais sauf que voilà, ils n'ont pas forcément la patience, ça zappe beaucoup. Je viens, toc, je reste pas longtemps. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai réussi à absorber une personne qui a un très beau passé, parce qu'il n'a rien à voir avec la restauration, il est architecte de métier. Donc il s'appelle Christophe. Il a eu l'audace d'aller dans des étoiles Michelin, frapper à leur porte, apprenez-moi à cuisiner. Et là, j'ai en face de moi, enfin, une personne sur qui je vais pouvoir, je pense, me reposer. Donc là, j'ai mon ailier peut-être, j'en sais rien, mon capitaine. Donc Christophe est passé second, là, ça y est. Je fais passer second, j'ai Louise qui est chef de partie, j'ai Antoine qui est en pâtisserie. Et bien sûr, parce que je m'y attache, de la formation. J'ai Ulysse qui est en BTS, qui a fait un bac au lycée hôtelier de Dinard et qui a voulu faire un BTS par alternance, qui est une très très belle personne, et je pense que c'est un futur jeune Goemio, je pense. Et Margot qui va intégrer l'équipe en septembre. En salle, on a Jean-Philippe qui est mon responsable de salle. Et il officie en tant que sommelier, parce qu'il a des connaissances sur le vin. Et on a un chef de rang, Elliot, qui est là, qui est présent. Donc, ils sont deux en salle. Pour faire 24 à 26 couverts, je pense qu'on est bien. À savoir qu'on a une démarche d'aller en salle, nous les cuisiniers. C'est nous qui amenons les assiettes aussi. Un petit peu à la nordique, quoi.
Ma dernière question, c'est de vous demander si en ce moment, il y a un plat qui vous travaille.
Ben là, on va démarrer les tomates. Quand vous faites du maraîchage bio, les tomates, c'est maintenant. Donc là, j'ai déjà une recette de tomates que je vais refaire cette année, que je faisais l'année dernière, qui plaisait énormément. On va sûrement partir sur une tomate qui va s'associer avec du cacao. Parce que le cacao, c'est un petit peu amer, ça bien fonctionner avec la sucrosité de la tomate et de l'acidité. Et on va sûrement associer avec cette tomate de la sardine, je pense.
Allez, une, deux, la trois, vive le bio.
إني قرار الناس
of Glass par Elissa Pie. Vous l'avez reconnu ce morceau, reprise du tube de Blondie, mais chanté en Inuktitut par Elissa Pie Isaac, une musicienne inuite et canadienne qui s'apprête à sortir un nouvel album, le cinquième, qui est attendu pour le 15 septembre prochain. On y trouvera 10 classiques mais revisités, du rock et de la pop des années 60 à 90. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, qui se termine chaque jour avec une recommandation jingle. Et oui, chaque jour en fin d'émission, je vous donne des conseils de choses à voir, à écouter ou à vivre. Là, on annonce une chouette soirée de fin d'année féministe. Ça se passe jeudi 29 juin à partir de 18h à la ferme de Quincé. On est dans le quartier Borgard à Rennes. Aux commandes, on retrouve le collectif Nous Toutes 35 qui fait d'une pierre deux coups avec ce moment festif qui vise, en plus de s'amuser, à récolter des sous pour leurs événements futurs, notamment des rencontres féministes nationales. Au programme de la soirée de jeudi, donc ça commence à 18h et ça se déroulera jusqu'à 23h, des stands pour s'informer et soutenir les associations présentes, un espace enfant et des jeux, mais aussi une projection, un vide-grenier ou encore un karaoké féministe évidemment. Petite précision, le lieu n'est pas accessible aux fauteuils roulants, mais le collectif reste disponible pour imaginer des solutions d'accès. Plus d'infos auprès de Nous Toutes 35 et pour les soutenir, ça se passe en ligne sur la plateforme de financement participatif Hello Asso. L'Arène, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.